Radio Enco.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Différence. Radio Enco.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Radio Enco, le podcast qui fait la différence. Alors aujourd'hui nous sommes sortis de notre café, c'est pourquoi les sonorités seront différentes. Nous avons déménagé grâce à Sébastien notre studio. Nous sommes à Diagora à la Beige où se déroule le colloque Handicap 2030 organisé par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. Un colloque qui propose un temps de réflexion sur le venir du secteur médico-social au travers du bâti, des projets d'innovation sociale et de la place des personnes. Ensemble, nous allons parler accessibilité, mais aussi écologie et horizon. Nous avons choisi de donner la parole à quelques personnalités parmi les nombreux intervenants de ce colloque. Et pour les interviewer au micro, donc moi c'est Christian, je suis entouré par Zora, bonjour Zora.
Bonjour.
Par Jennings.
Salut Christian, bonjour tout le monde.
Et par Raouf.
Bonjour.
Notre premier invité nous vient de Belgique, il est directeur général du Petit Bonheur, Cyril Jacquier, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Christian, bonjour tout le monde.
Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter brièvement quelques mots ?
Je viens de Belgique, je suis directeur général de 4 foyers en réalité qui accueillent des personnes adultes déficientes intellectuelles et qui ont des troubles psychiatriques. Donc on accueille au total 135 personnes qui sont réparties en tout sur 4 bâtiments et en plus ils sont divisés en 13 unités de vie.
Et c'est quoi du coup le Petit Bonheur ? C'est cet ensemble de foyers ?
C'est l'ensemble de foyers, donc on accueille des personnes orientées en foyer d'accueil médicalisé, en foyer de vie et en maison d'accueil spécialisée. Et aussi, ça du coup c'est des Français, mais on accueille aussi pas mal de Belges.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a de réellement innovant dans ce projet ?
Alors je pense qu'on m'a demandé d'intervenir ici aujourd'hui parce que on a une manière a priori en Belgique de faire qui est très intéressante. En fait, on donne vraiment la priorité à la personne et on lui propose, comme je disais tout à l'heure sur scène, on leur propose de leur demander un rêve qu'ils aimeraient réaliser ou d'un métier qu'ils aimeraient réaliser. Comme ça, on va pouvoir avec eux déterminer toutes sortes d'objectifs à atteindre avant de pouvoir atteindre cette fameuse aspiration de vie. Et peut-être que ça, on y arrivera, peut-être que ça y prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ou alors ce sera très rapide, mais quoi qu'il arrive, on va avancer. Et c'est ça qui est intéressant. On ne va pas vous dire non, c'est impossible, tu ne pourras jamais passer ton permis de conduire, enfin, tu as une déficience intellectuelle, on dira oui, tu as envie de passer ton permis de conduire, c'est top. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du sport en se baladant dans la rue, en vélo, pour apprendre les panneaux, on va aller en classe pour apprendre le code de la route et tout ce genre de choses. Et je pense que c'est ça que l'ARS elle avait envie que je partage un peu au directeur d'établissement d'ici d'Occitanie.
Du coup, ça demande un peu d'adaptation à la personne à laquelle vous vous adressez pour lui faire comprendre qu'il faut y aller de telle manière. J'imagine que vous devez choisir entre guillemets peut-être les mots pour lui faire comprendre. Et peut-être à vous aussi une certaine adaptation par rapport à ces problèmes physiques, etc.
Oui, tout à fait. C'est nous qui nous adaptons en réalité. Donc moi, quand j'ai quelqu'un qui veut venir au Petit Bonheur, je vais toujours le rencontrer d'abord. Donc c'est moi qui me déplace à la première rencontre et pour que je puisse, à la deuxième rencontre, le faire visiter l'unité de vie que j'aurais présélectionnée. Et je vais pouvoir dire aussi à la première rencontre si le Petit Bonheur est adapté à la personne et si on peut donner un accueil en toute bienveillance. Donc c'est pas lui de s'adapter au candidat, mais non, c'est nous qui devons être adaptés à lui.
Et j'ai cru comprendre que vous accordez une importance aussi dans ces lieux de vie, que c'est pas du coup, ça ressemble pas du tout à des hôpitaux, que l'aménagement c'est important pour vous.
Oui, en effet, nous on a un bâtiment qui était un ancien lieu de vacances, hein, une auberge. Et donc quand on ressort de la chambre, en réalité, on est directement dans la cour intérieure. Il n'y a pas de couloir. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans la philosophie, c'est on toque avant d'entrer. C'est, je dis toujours à mes équipes, ici, vous êtes chez eux. Donc c'est leur maison à eux. Donc on respecte les personnes. Quand on va chez eux, on les respecte. On leur demande si on peut les tutoyer. C'est leur rythme de vie, c'est leur maison. S'ils n'ont pas envie de se laver ce matin, ben, on leur demandera s'ils ne veulent pas plutôt le faire le soir. Ces choses-là. On n'est pas dans cette obligation de suivre la règle comme elle a été dictée par les instances au final.
Et justement, vous parlez de vos salariés, etc. Combien de personnes composent cette association-là?
En gros, nous, au Petit Bonheur, ben, c'est du 1 pour 1. Donc tout confondu, c'est-à-dire que pour nos 135 résidents qu'on accueille, on emploie 135 équivalents temps plein. Donc il y a des personnes en temps partiel, donc ça fait au total 150 personnes qui travaillent pour nous. Mais parce qu'on est aussi soumis à des normes minimales en Belgique, mm-hmm. où on, par exemple on doit avoir minimum 0,7 équivalents temps plein éducatif par personne. Mais nous, au Petit Bonheur, on a le droit d'aller au-delà des normes.
D'accord. Et le fait d'avoir une personne pour une personne à accompagner, ça permet justement d'être au plus proche d'elle et d'être dans son accompagnement le plus total, j'ai envie de dire.
Oui, alors ils ne sont pas toute la journée un pour un. En réalité, c'est parce qu'il y en a qui travaillent le matin, il y en a qui travaillent l'après-midi, il y a aussi l'équipe de nuit. Mais au total, on est plutôt pas mal au niveau du taux d'encadrement. Et on fait pas mal de projets individuels. Ils ont tous un éducateur référent. Ils ont même souvent deux éducateurs référents. Il y a une co-référence. Comme ça, s'il y en a un qui est malade ou qui part en congé, il y a toujours quelqu'un qui a ce rôle de guide qui est présent pour la personne.
Et c'est une question subsidiaire. Enfin, disons, depuis combien de temps ça existe, ce genre d'établissement ?
Un Petit Bonheur existe depuis 2006 et puis on s'est agrandi au fil du temps et le bâtiment dont je vous parle là, le projet dont je vous parle là, c'est que depuis 2012.
Oui. Est-ce que vous les amenez vers l'autonomie? Est-ce qu'il y en a qui se deviennent après indépendants ou non?
Oui, alors moi j'ai déjà dû accueillir des personnes que personne ne voulait en France. Parce qu'il y a eu trop de troubles du comportement et il s'est avéré qu'ils n'avaient pas de déficience intellectuelle. Et eux, par exemple, sont repartis effectivement à un moment donné en France sans traitement. On a eu deux succès par rapport à ça. Parce qu'ils ont eu un parcours institutionnalisé et médicalisé dès leur jeune enfance, mais ce n'était pas adapté à eux. Et arrivé chez nous, on a réussi à inverser la balance. Et là, on est dans un projet d'autonomisation où la finalité, là, on va acheter un bâtiment à taille humaine. Et il y aura maximum 6 personnes qui pourront être là et on va les préparer à l'autonomie. Et au bout du compte, ce projet-là, il y aura un éducateur du lundi au vendredi de 9h à 17h. Mm-hmm. Tout le reste du temps, il n'y aura pas d'encadrement à ce moment-là. Mais attention, il faut bien savoir que moi, j'accueille des personnes qui ont toutes une déficience intellectuelle.
Oui.
Du coup, c'est pour cela que vous dites peut-être que les personnes... et notamment les familles françaises, se tournent plus vers la Belgique pour avoir un accompagnement plus dédié à la personne.
En tout cas, il est sûr que les personnes qu'on accueille ont déjà eu des passages violents dans leur vie. Et donc, ils ont du mal à trouver de la place en France. Mais la Belgique, est effectivement, a priori, est plus ouverte à ce type de gestion du comportement. Et donc, je pense qu'effectivement, les familles, vous savez, moi, j'accueille beaucoup de personnes qui sont originaires de la moitié nord de la France. Et c'est parfois plus près que Marseille ou,
ah oui, tout à fait, oui.
ou Toulouse.
Ben justement, est-ce que c'est aussi du fait qu'il y a un manque de places criantes en France et d'une meilleure qualité de soins en Belgique que les familles se tournent chez vous?
Je pense qu'il y a la philosophie. Il y a les valeurs en Belgique qui sont différentes, mais au niveau des places en France, je pense qu'on pourrait vraiment libérer beaucoup de places en créant des projets d'autonomisation dans les centres-villes pour libérer de la place dans les foyers de vie actuels. Parce qu'il y a beaucoup de foyers de vie qui accueillent des personnes, mais qui sont présentes que un ou deux jours par semaine parce que le reste du temps, ils sont dans leur famille. Donc ça veut dire quand même que ces personnes-là prennent la place... un lit qui pourrait être utilisé par une personne de manière permanente en réalité, mais qui est à l'hôpital ou alors qui doit aller en Belgique.
Justement, est-ce que vous voyez une différence dans la question du handicap entre la France et la Belgique, notamment au niveau de ces types d'établissements?
Ben, nous, on arrive à mieux gérer les financements grâce à notre organigramme qui est épuré. Parce qu'en réalité, en France, on a le directeur, on a le sous-directeur, on a le sous-directeur adjoint, on a le chef de groupe, on a le sous-chef de groupe, on a le sous-sous-chef.
Un peu lourd tout ça, oui, c'est sûr.
C'est un peu lourd au niveau organigramme, mais c'est très coûteux. Alors que nous, en Belgique, en réalité, moi, sur un bâtiment, j'ai un directeur et un chef éducateur. Après, j'ai des unités de vie, mais c'est tout au niveau des responsables. Et donc, moi, je peux mettre les moyens.
Est-ce que vous pensez, par rapport à la... Enfin, Christian l'a déjà posé, mais je ne sais pas trop comment la... Qu'est-ce que vous voyez comme... Enfin, je pense que vous y avez un peu répondu déjà. La différence entre la France et la Belgique.
Ah bah, il fait plus froid en Belgique. Non, il y a beaucoup de différences, mais je veux dire... Parce que je sais que dans les établissements, il y a un manque de moyens, mais moi, j'ai l'impression d'avoir décelé que ce problème de d'organigramme où il y a beaucoup de responsables pourrait vraiment niveler les choses, enfin en tout cas vraiment donner des moyens supplémentaires aux établissements. Donc là après c'est un problème d'ordre structurel, hein. C'est assez compliqué de faire machine arrière par rapport à ça.
Vous pouvez coopérer ou...
Moi, on m'a déjà demandé, plusieurs départements m'ont déjà demandé de venir ouvrir dans leur département un établissement pour montrer que certaines choses sont possibles, en effet. Mais bon, je me concentre sur ce qui est proche de chez moi, malgré tout.
Vous n'avez pas parlé d'insertion professionnelle. Ouais. Est-ce que c'est un sujet pour le petit bonheur que d'accompagner les gens vers l'emploi ou le bénévolat?
Oui, tout à fait. Donc nous, en réalité, donc au petit bonheur, donc les personnes françaises qu'on accueille, je ne peux pas en Belgique leur trouver de boulot en ESAT. Pourquoi ? Parce que s'ils ont un boulot en ESAT, ils doivent avoir un compte en banque et donc être domiciliés pour pouvoir gagner cet argent. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si on fait ça, si on les domicilie en Belgique, ils perdent leurs droits français. Donc tout ce qui est financement ici en Belgique. Donc ce qui fait que nous, on travaille par contrat. Donc nous, on le sous forme de stage qui dure 6 mois. Donc la personne choisit de travailler plutôt au parc et jardin. Donc eux, ils peuvent aller du coup travailler dans le parc et jardin dans nos différents établissements, dans le nettoyage, dans la buanderie, dans l'informatique. Toutes ces choses-là, on leur fait faire en cuisine aussi beaucoup. On leur fait faire des contrats. Et de là, ils ont une rémunération tout à fait symbolique. C'est-à-dire qu'ils peuvent gagner des jetons à échanger contre du matériel ou des bons d'achat ou des choses comme ça. Mais de manière officielle, on peut pas nous leur donner un salaire parce que ça voudrait dire qu'on utilise le financement qu'on reçoit pour eux pour les rémunérer eux. Donc ça ne va pas.
Et ça permet de reconnaître quand même quelque part leur travail quand même.
Oui, tout à fait. Donc il y en a évidemment les Français qui sont chez nous, il y en a plusieurs où leur objectif est un retour en France, ce qui est tout à fait normal. Donc on leur explique, ok, mais t'es chez nous parce que t'as des gros troubles du comportement, il va falloir les régler, mais qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Ben, moi j'aimerais bien faire le parc et jardin. Alors nous on peut le préparer à travailler au parc et jardin et à poser sa candidature dans un foyer en France, dans son département d'origine, et même on a déjà fait faire des stages dans des ESAT avec foyer d'hébergement pour des retours en France.
Et pour les Belges c'est différent, il y a moins ce problème de retrait des allocations s'ils travaillent. Vous en avez aussi, j'imagine, des Belges parmi vos résidents?
Oui, tout à fait. Ben là du coup il n'y a pas de problème parce que c'est tout à fait reconnu, ils sont domiciliés en Belgique, ils sont Belges et ils perçoivent leur allocation et leurs droits belges. Donc ils peuvent, étant donné qu'ils sont reconnus comme personnes déficitaires, percevoir un salaire en plus dans des associations telles que des ESAT. C'est juste que les Français, pour pouvoir le faire, ils doivent être domiciliés en Belgique. Alors, ils seront plus français, si vous voulez. Ils seront plus comme domiciliés en France.
Mais c'est compliqué pour les Français, même en France, de cumuler justement un salaire.
Ah, ok. D'accord.
En fait, en France, il y a un principe de vase communicante, c'est-à-dire qu'il y a une allocation adulte handicapé qui est déterminée, et si jamais la personne travaille, ben,
c'est diminué en proportionnel.
Voilà,
c'est dommage parce que ça peut vraiment augmenter leur argent de poche.
Et ça n'incite pas les personnes à travailler.
Voilà, tout à fait.
En effet.
Je crois que c'est à partir d'un carton où là, ils commencent à réduire l'allocation adulte handicapé.
Okay.
En dessous, par contre, ils n'y touchent pas.
Ok. Un carton, c'est peu.
C'est très peu, oui.
Bon, c'est déjà ça, mais bon, c'est vrai que pour les pousser et pour les motiver encore plus à travailler, ce serait tellement génial d'avoir cet argent en plus, quoi.
Ah ben, tout à fait, oui, effectivement.
Ouais, non, si.
On fait peut-être une conclusion de ce premier entretien.
Monsieur Richard Cuau, merci vraiment d'être venu avec nous de Belgique, même si vous n'êtes pas venu que pour nous. On va vous laisser le mot de la fin, peut-être nous dire, vous qui avez participé au début de ce colloque, qu'est-ce que vous en retenez ou quel message vous souhaitez transmettre aux auditeurs?
Tout d'abord, je suis honoré d'avoir été sélectionné pour pouvoir échanger avec vous, vraiment. Vraiment. Je l'attendais avec impatience quand on m'a annoncé ça ce matin, j'attendais que ça. A priori, j'ai réussi à faire passer un peu la philosophie qui nous porte au niveau du petit bonheur. Plusieurs intervenants me l'ont dit, mais en tout cas je sens qu'il y a une énergie qui demande qu'à surgir pour créer cette inclusivité de manière intelligente ici en Occitanie. Elle est vraiment très intéressante, cette ARS que vous avez, vraiment.
Merci à vous, en tout cas c'est un témoignage très instructif.
Merci.
Radio Enco.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio Enco.